divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Marie-Paul Kieny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vaccinologue, directrice de recherche à l'INSERM et présidente du comité scientifique sur le vaccin Covid-19 France. Vous avez été sous-directrice générale à l'OMS et vous avez travaillé sur le virus Ebola. Vous connaissez donc les crises sanitaires, leur gravité, l'incertitude qu'elles génèrent. Ce sur quoi je voudrais que nous réfléchissions aujourd'hui, ce sont les errements et les difficultés vis-à-vis de la vaccination. Nous avons déjà consacré une émission à la crise sanitaire. Nous avons, à raison présente, réfléchi de façon critique au rapport aux experts en période de crise, dans le numéro 217 que je recommande chaleureusement et qu'on peut commander sur le site de l'Union rationaliste et sur Cairn. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais faire avec vous, Marie-Paul Kieny, c'est réfléchir à la question des vaccins. Si on nous avait dit il y a un an qu'on aurait non pas un vaccin, mais plusieurs vaccins anti-Covid, on ne l'aurait sans doute pas cru. Qu'est-ce qui, selon vous, a permis qu'on aille si vite? Est-ce la concurrence entre les laboratoires, la collaboration internationale des chercheurs, les aides gouvernementales, le succès de certains laboratoires?
Alors, en fait, un succès comme ça, c'est jamais monofactoriel. Il y a de multiples raisons qui ont aidé à ce qu'on ait eu ce succès et ce succès si vite. Alors, la première chose, c'est que quand il a s'agi de faire un vaccin, on savait quoi faire. Pourquoi on savait quoi faire? C'est qu'en fait, il était naturel de s'intéresser à cette protéine qu'on appelle spike ou spicule, donc qui est l'enveloppe du virus, parce qu'évidemment, comme ça fait l'enveloppe du virus, c'est la partie par laquelle le virus est le plus faible, le plus sensible. Et donc, on savait que, on pensait savoir qu'il fallait utiliser la protéine spike comme cible pour la vaccination. Alors d'autre part, on avait déjà, au mois de janvier, on avait la séquence de cette protéine spike, puisque en fait les chercheurs chinois avaient publié des données du génome du virus SARS-CoV-2 et on savait donc quelle était la cible très précisément. Alors, ce qu'on savait aussi, c'est que on avait déjà eu beaucoup de développement pour les vaccins, pour les urgences qui avaient été faites quelques années avant, justement pour répondre à la pandémie, à l'épidémie d'Ebola qui a eu lieu en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Et donc, les crises étant des révélateurs pour l'innovation, en fait, on avait beaucoup progressé dans le domaine de ce qu'on appelle des plateformes vaccinales. À ce moment-là. Alors, première chose, donc déjà, on ne partait pas de rien et on savait ce qu'on voulait faire. Alors, la deuxième chose, c'est que, évidemment, les chercheurs, à la fois dans le domaine académique, voyons par exemple l'université d'Oxford en Angleterre, d'autres aussi, ont tout de suite commencé, se sont tout de suite rendus compte, en fait, qu'il y avait là quelque chose et ont décidé de commencer à fabriquer des prototypes de vaccins contre le SARS-CoV-2. Alors ça, c'est évidemment des académiques comme Oxford que j'ai cité, mais aussi les biotechnologies, surtout celles qui voulaient se prouver parce qu'elles n'avaient jamais eu l'occasion de se prouver. Donc les BioNTech, la biotechnologie allemande, avec la technologie de ARN, et Moderna, une biotech américaine qui avait été aidée depuis des années par la BARDA, qui est l'agence du ministère de la Santé américain, qui finance à hauteur de milliards de dollars chaque année le développement de ce que les Américains appellent des contre-mesures, et qui sont donc tous les outils qu'on pourrait avoir pour protéger le citoyen américain contre des crises sanitaires. Alors donc, on savait ce qu'on devait faire. Il y avait des plateformes qui étaient déjà bien avancées. Les chercheurs ont tout de suite commencé, dès le mois de janvier, à commencer à fabriquer des prototypes. Et alors sont venus effectivement les financements, des financements financement très important, essentiellement américain d'ailleurs, mais pas uniquement. Mais les Américains étaient extrêmement bien placés, puisqu'à travers cette agence BARDA, ils avaient déjà financé beaucoup de ces producteurs à travailler sur des prototypes pour d'autres maladies. Et donc, ils ont tout naturellement continué à les aider. Alors, il y a eu aussi beaucoup d'aide de la part des régulateurs, hein, puisque les régulateurs, donc ce sont les gendarmes, disons, des produits pharmaceutiques, ont donné des facilités pour aider les développeurs de vaccins, non pas, comment dirais-je, à oublier des étapes, mais à faire toutes ces étapes de façon presque parallèle. J'ai deux exemples que j'utilise souvent pour expliquer ce phénomène. Alors, l'une, c'est celle de l'accordéon. Alors, quand vous avez un accordéon qui est plié pour être rangé, eh ben, sa longueur est très petite, hein, et quand vous le dépliez, vous voyez combien il y a de feuilles. Alors, effectivement, chaque feuille, ce sont les différentes étapes du développement du vaccin, et quand elles sont dépliées, on voit qu'il y en a beaucoup, et quand l'accordéon est replié, en fait, on a l'impression que c'est tout petit. Alors, l'autre analogie, c'est celle des poupées russes. Chaque étape est une poupée. Quand vous les mettez côte à côte, ben, vous voyez bien qu'il y en avait beaucoup, et si vous les empilez dans la plus grande, eh bien, vous avez l'impression que c'est très petit. Eh bien, de la même façon, les chercheurs et les industries, en fait, ont fait presque en parallèle ont démarré très rapidement toutes les étapes. Alors, par exemple, ils ont lancé des évaluations dans des modèles animaux assez, assez coûteux, par exemple chez le primate non humain, chez le singe macaque, qui est un très bon modèle pour évaluer le pouvoir, la protection donnée par les vaccins prototypes. Donc ils ont commencé ça. Avant même d'avoir les résultats, ils ont commencé à faire des études qu'on appelle de phase 1. Donc ça veut dire des études de petite taille, quelques dizaines de personnes, pour voir si le vaccin est sûr et ne fait pas d'effets secondaires immédiats de toxicité. Et dès qu'ils ont eu les tout premiers résultats, donc je veux dire au bout d'un mois, alors que ces études durent un an, oui, hein, ils sont toujours en cours d'ailleurs, ils ont commencé à faire des études un peu plus grandes pour s'assurer qu'ils avaient bien choisi le bon niveau de dose et le bon schéma vaccinal. Et dès qu'ils ont eu les premiers résultats, c'est pareil, au bout de très peu de temps, un mois, ils ont tout de suite commencé à recruter donc les essais cliniques extrêmement larges, qui ont recruté de 30 000 à 40 000 volontaires. Et c'est là qu'on commençait très rapidement, dès qu'on a su les tout premiers résultats des phases précédentes. Ça veut dire que les premiers qui ont commencé ces essais d'efficacité à la fin du mois de juillet, entre la jonction entre juillet et août. Ils ont recruté les volontaires très vite. Donc, en l'espace d'un mois, ils ont réussi à recruter leurs 40 000 volontaires. Un mois après, ils leur ont donné la deuxième administration de vaccin. Et encore un mois après, donc au mois de novembre, ils ont pu voir les résultats d'efficacité.
Ils ont donc mis les bouchées doubles et il y a eu comme un processus heuristique et qui allait dans le bon sens. Mais maintenant, ce que je voudrais que vous nous disiez, c'est les problèmes qui se posent aujourd'hui. Je pense à la concurrence entre les vaccins. Est-ce que celle-ci vous apparaît comme une chance ou a-t-elle des effets pervers? Et la méfiance actuelle vis-à-vis du vaccin AstraZeneca, le refus par certains de Pfizer à cause des effets supposément dangereux de l'ARN messager, que vous semble de ces effets-là?
Alors, il me semble, d'abord, concurrence ou pas concurrence, il me semble qu'en fait, jusqu'à présent, chacun des producteurs a travaillé pour lui. Son propre concurrent, c'était lui-même. Son propre concurrent, c'était le temps. Puisqu'il a fallu aller plus vite possible, des équipes qui ont travaillé vraiment en continu, à la fois des académiques et des industriels, hein. La même chose pour les régulateurs, la même chose pour les producteurs, parce qu'effectivement, dans ce que j'ai oublié en fait de mentionner, qui était très important, c'est que normalement, quand vous développez un vaccin, vous n'allez pas vous lancer dans la construction d'usines pour faire ce vaccin qui coûte des centaines de millions d'euros avant d'avoir un résultat. Alors que là, toutes ces usines ont été construites avant, potentiellement à perte, mais à perte pour l'argent public, il faut quand même bien dire ce qui est. Alors, la course contre la montre, chacun a fait la course contre lui-même et pas tellement contre les autres. je pense. Alors, la concurrence, ça va venir, bien entendu, et on le voit déjà maintenant. Un tel, à partir du mois de novembre, sont sortis les résultats des tests d'efficacité, et c'était qui annonçait 94%,
absolument,
qui annonçait 91%, qui disait 93%, n'en jetez plus, hein, et chacun voulait être plus beau que beau. Alors, on va avoir cette concurrence qui va rester là pendant un certain temps, parce que d'une part, c'est pas comme si on avait trop de vaccins. Et à ce moment-là, la concurrence pourrait servir à certains vaccins de venir prendre la place des autres. Mais pour le moment, la demande est tellement plus importante que l'offre qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. C'est pour ça que les pays qui n'ont pas accès aux vaccins qui ont été développés, disons, essentiellement actuellement pour le marché américain, mais aussi européen, etc., se rabattent sur les vaccins qui sont fabriqués par d'autres producteurs qui sont peut-être moins connus, comme l'Institut Gamaleya en Russie, comme Sinovac, comme Sinopharm, etc., parce qu'en fait, la demande est tellement plus importante que l'offre. Alors, il va se passer un moment quand tout le monde aura été vacciné. Alors, il faudra savoir, est-ce qu'effectivement il faut une revaccination dans un an, dans moins, dans plus, etc. Et après ça, quand tous ces vaccins se seront, comment dirais-je, stabilisés, on verra et il y aura, à ce moment-là, il y aura une vraie concurrence et ceux qui vont rester, c'est ceux qui auront un avantage compétitif par rapport aux autres. Alors, quels peuvent être ces avantages? Ça peut être une efficacité plus grande.
Bien sûr.
Et là, il semble bien qu'effectivement, ceux qui sont à 94,5% ont peut-être un avantage par rapport à ceux qui annoncent 50%. Après ça, il y a une question de sécurité. Alors, ceux qui n'ont pas de problème d'effets secondaires, même extrêmement rares, hein, comme on peut voir maintenant ces cas de thrombose, eh bien, ceux qui n'ont pas ces problèmes vont peut-être survivre à ceux qui ont ces problèmes.
Oui.
Parce
d'accord.
que quand on a le choix, on dira, on préfère peut-être prendre un autre vaccin. Après ça, ceux qui ont la durée de protection la plus longue,
oui,
ce qu'on ne sait pas maintenant pour le moment, auront un avantage par rapport à ceux qui protègent de façon plus courte. Ceux qui sont plus efficaces contre les variants, par exemple, auront un avantage, etc.
Bien
on
sûr.
Peut aussi penser que ceux qui seraient éventuellement, alors on n'en a pas encore, mais ça pourrait venir, qui seraient utilisables par voie orale, ou alors ceux qui, comme le vaccin de Janssen, pourraient être efficaces avec une dose seulement, auront un avantage par rapport aux autres. Donc, pour le moment, c'est trop tôt de savoir qui va gagner et qui va rester avec nous dans le futur.
Le processus est encore long. Alors, une autre question que je pose à la vaccinologue que vous êtes, c'est comment combattre la méfiance de très nombreux citoyens face au vaccin? Comment faire entendre à ceux qui sont valides aujourd'hui et hésitants ou craintifs que la vaccination est un paravent contre la maladie et non un danger en lui-même? Comment faire?
Alors, je pense que, d'abord, la situation a beaucoup changé en France. Comme vous savez, la France est quand même assez réticente à la vaccination. Et
oui.
C'est pour ça que,
historiquement,
en fait, le gouvernement, tout à fait, a du mal. Oh, ça n'est pas tellement vieux, en fait. Ça date surtout de la pandémie de grippe 2009-2010, hein, où, en fait, il y a eu beaucoup de discussions. La pandémie n'étant pas sévère, les gens ne voulaient pas se vacciner. Est-ce que le gouvernement a acheté trop de vaccins? Et c'est parce que c'est le lobby des industriels. Tout ça, c'est juste pour mettre de l'argent, etc., etc. Et donc, un certain complotisme, hein, qui a amené les gens à être très réticent à la vaccination, ce qui a amené d'ailleurs le gouvernement à devoir, au moins pendant le temps qu'il le faudra pour que la confiance revienne, rendre obligatoire les 11 vaccinations de la petite enfance. Alors quoi faire? Alors je pense qu'il faut d'abord, il faut parler aux gens, il faut être honnête, il faut être transparent, il faut leur dire ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Il ne faut pas leur dire circuler, il n'y a rien à voir. Il faut effectivement reconnaître que d'abord qu'il n'y a pas de procédure médicale qui est sans risque, ça n'existe pas. Que d'ailleurs, se lever le matin, il y a aussi un risque de se lever le matin. Et que donc, ce qu'il faut regarder, c'est le rapport bénéfice-risque. Et là, dans le cas de la vaccination Covid, pour tous les vaccins qu'on a, le rapport bénéfice-risque est largement en faveur du bénéfice. Alors, évidemment, pour ça, le bénéfice-risque doit aussi se considérer à l'échelle de différentes catégories de populations. Et c'est pour ça que l'analyse qui a été faite pour le moment en France pour la Haute Autorité de Santé a donc amené à recommander les vaccins, le vaccin d'AstraZeneca, par exemple, pour les populations de plus de 55 ans, parce que c'est pour elles que le rapport risque, à partir de 55 ans, que le rapport risque-bénéfice est le plus important. Les Britanniques ont jugé que c'était à partir de 30 ans, donc une évaluation un peu différente. Mais donc, ça veut bien dire qu'effectivement, pour les gens qui sont plus âgés, le risque d'avoir un Covid grave, de mourir du Covid, est bien plus élevé que le risque très faible d'avoir un problème de coagulation, et que donc encourager les gens à aller se faire vacciner.
Expliquer les chiffres que les populations n'entendent pas toujours. Et la question des risques minimales n'est pas toujours entendue.
C'est sûr. Alors on oublie souvent. Alors je ne veux surtout pas jouer la vaccination contre d'autres interventions, mais j'étais aussi sur l'antenne. On m'a posé une question de savoir mais pourquoi est-ce qu'on est aussi prudent pour un risque de thrombose qui est à l'échelle de disons quelques cas sur 100 000 personnes, alors qu'en fait le risque de thrombose pour les jeunes femmes qui prennent la pilule est de 0,06% annuel, et des millions de femmes prennent la pilule sans se poser la question. Alors il faut savoir que c'est marqué sur le papier qui accompagne la pilule, c'est marqué qu'il y a un risque possible, mais on le sait, ça a été intégré, ça a été compris, et quelque part, de façon inconsciente, on l'accepte. Parce que on voit l'avantage, en fait, surpasse ce petit risque.
Alors, c'est sur le nécessaire calcul du rapport bénéfice-risque, Marie-Paul Kenny, que nous allons clore cette émission. Je vous remercie pour vos explications très claires et votre combat.
Merci beaucoup et merci à vous.
Je renvoie au nouveau site de l'Union Rationaliste grâce auquel vous pourrez réécouter cette émission comme celle que nous avions consacrée en 2014 à la vaccination avec Odile Launay et Brigitte Autran, comme celle d'ailleurs que nous avions consacrée en septembre 2020 à la crise sanitaire et aux fake news. Vous pourrez aussi y lire nos analyses comme celle sur la vaccination universelle et commander le numéro 217 de Raison Présente sur la crise sanitaire et les experts. Je remercie Peyré Legras et Inès De Bruyne d'avoir rendu possible cette émission. Merci à Claire Poinsignon qui nous aide tant pour le site de France Culture. Merci aussi à Roland Lemoine et Philippe Desgremont pour le site de l'Union Rationaliste. Et je vous dis au dimanche 25 mai où nous parlerons de la réforme du CAPES.